Putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie?
C'est le Canu Info.
Ah,
je ne savais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Même si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut dépasser ton permis, ton vol, voler et ton fichier. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends une machine dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est Canu Info.
Radio Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez pas.
Ouais, je vous l'avais dit que ça commencerait le Canu Info du vendredi. Je vous l'avais dit, ce que vous entendez comme petit frotte-frotte dans vos oreilles, et bah c'est tout simplement le bruit du petit film fraîcheur que j'ai mis sur la bonnette de mon micro. Le Canu Info du vendredi commence enfin. Dernier Canu Info sans couvre-feu, à moins que ça commence ce soir à minuit. De quoi on va parler dans ce Canu Info?
Eh bien, on va commencer par le local et vous relayer le communiqué de Jamais sans toit, puisqu'une centaine d'enfants sans abri sont encore recensés dans la métropole lyonnaise.
Et ensuite, la rubrique préférée des auditrices et des auditeurs du Canu Info, les vitrines brisées.
Et puis, on va quand même vous parler de ce couvre-feu et surtout de ce demain, samedi 17 octobre, parce que de cette journée, on a beaucoup de choses à vous dire. On viendra d'abord sur la censure artistique qui a lieu ces derniers temps, au regard des images des policiers et de la surveillance par drone qui, elle, est en passe d'être légalisée.
Et eh bien, on parlera bien sûr du coup de l'arrivée du couvre-feu en lui-même.
Et puis, on vous parlera de la commémoration qui a lieu demain pour le 17 octobre 1961, jour funeste où plusieurs centaines d'Algériens et d'Algériennes ont été massacrés à Paris.
Dans le même thème, c'est demain soir qu'arrive la marche des sans-papiers et des sans-papières à Paris.
Et puis, toujours du côté de la répression, on ira de côté de Toulouse pour vous parler de cette personne inculpée.
Et pendant ce temps-là, les flics sont toujours bien actifs car à la veille du couvre-feu, le gouvernement multiplie les expulsions de logements et de ZAD.
Et évidemment, nous, on ne s'arrête pas. Il y aura le point agenda dans le Canu Info du vendredi.
Et toujours possible, si vous avez un ACAB à nous proposer, eh bien, c'est possible. Il suffit d'appeler le 04 78 39 18 15. Je répète, 04 78 39 18 15. Vous appelez, on vous répond et vous dites votre ACAB. Bonne écoute.
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Du Rouennais de la région qui s'appelle Stéphane Boulet.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est, la lutte des instits à Voix-en-Velin.
Petit reportage sur la grève qu'on a dit à les interjouer pendant la masse du rassemblement pour le maire de Lyon.
Canu Info du vendredi. Rubrique locale.
Et oui, on a plein de choses à vous raconter au local, mais on avait envie de revenir sur un communiqué de Jamais sans toit. Pourquoi ? Parce que demain, c'est aussi la journée internationale du refus de la misère. Et la crise sanitaire a plongé 1 million de Français et de Françaises supplémentaires dans la pauvreté. Et au niveau national, c'est 1400 enfants qui ont dormi dans la rue à la veille de la rentrée scolaire, selon le recensement établi par la Fédération des acteurs de la solidarité début septembre. Malheureusement, la métropole lyonnaise ne fait pas exception à ce sombre tableau. À 2 semaines de la mise en œuvre du dispositif de renfort hivernal, le collectif Jamais sans toit recense déjà plus d'une centaine d'enfants sans abri au sein des établissements scolaires de la métropole. Comment expliquer ce chiffre élevé alors même que les familles mises à l'abri l'hiver dernier ont vu leur hébergement prolongé à la fin de l'état d'urgence sanitaire ? La réponse est simple. Pour la majorité d'entre elles, les familles actuellement sans abri font partie de celles qui n'ont pu accéder ni au plan froid mis en œuvre l'hiver dernier, dont le nombre de places est notoirement insuffisant, ni au plan de mise à l'abri d'urgence qui a été mis sur pied au moment du confinement. Alors même que certaines d'entre elles rentraient dans les critères de vulnérabilité établis par la préfecture du Rhône. En effet, si début mars, Jamais sans toit recensait encore un certain nombre de familles qui n'avaient pu trouver place au sein du dispositif hivernal, la crise sanitaire avait permis à des dizaines d'entre elles d'être mises à l'abri à la faveur d'un plan d'urgence exceptionnel. La métropole de Lyon avait également pris sa part en assumant sa compétence de protection de l'enfance et en finançant des centaines de nuitées d'hôtel. À la fin de l'état d'urgence sanitaire, le 10 juillet, la ministre du Logement, Mme Emmanuelle Wargon, annonçait même qu'il n'y aurait pas de remise à la rue. Reçue à la mi-juillet, successivement à la métropole par Mme Béatrice Vessillé et M. Renaud Père, et par Mme Sandrine Runel, le collectif alertait sur la situation des familles restées à la rue. Les élus réaffirmaient les engagements pris pendant la campagne des municipales et se montraient disposés à tout mettre en œuvre afin qu'il n'y ait plus d'enfants à la rue cet hiver. Recensement des bâtiments vides et mise à disposition temporaire de la vacance. Mais début septembre, interrogé par BFM Lyon, M. Bruno Bernard, président de la métropole, confirmait les propos qu'il avait tenus cet été dans un entretien au magazine Paris Match. À la question « Qu'est-ce qui vous fait honte dans votre ville ?», il avait répondu « Les enfants qui dorment dehors ». Pourtant, malgré les alertes répétées, la volonté politique affichée par la nouvelle majorité tarde à se traduire en actes. Samedi 17 octobre, du coup demain, un couvre-feu sera mis en place de 21h à 6h du matin au sein de la métropole lyonnaise. Il demeure inconcevable que des dizaines d'enfants et leurs familles puissent passer la nuit dehors. L'État et les autorités compétentes, donc ça veut dire la métropole et la ville, doivent prendre leurs responsabilités pour agir vite et tout mettre en œuvre afin que ces familles puissent être mises à l'abri dans des conditions dignes de toute urgence. L'hiver dernier, le 20 novembre, à l'occasion de la célébration du 30e anniversaire des droits de l'enfant, une dizaine d'établissements scolaires étaient occupés afin de servir de refuge à des élèves sans toit. Espérons que cette année, les droits fondamentaux et l'intérêt supérieur de l'enfant seront enfin respectés. Donc voilà, ça c'était la fin du communiqué Jamais sans toit. On espère effectivement, même si malheureusement, on en doute.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
qu'une grille dedans. Blanc, blanc, neuf, ça fume. Ça fume. Ça fume. Ça fume. Fais la fierté de toute la brigade. En ville à 160, elle fait du dérapage. Turbo injection, suréquipée. Une si belle voiture, elle fait des ingénies. Ça fout. Ça fout. Ça se consume. Et ça se consume.
Info du vendredi.
Et ouais, qui a mis le feu au commissariat de police à Champigny-sur-Marne? C'est bien ce qu'on se demande. Vous savez pas ce qui s'est passé à Champigny-sur-Marne? Eh bien, tout simplement, dimanche 11 octobre, le commissariat a été attaqué par une quarantaine de personnes à coups de barres de fer et de jets de projectiles. Deux policiers étaient en train de fumer tranquillement une cigarette à l'extérieur du commissariat lorsqu'une quarantaine de personnes, du coup, sont arrivées armées de barres de fer. Les deux flics ont juste eu le temps de s'enfermer dans le sas d'entrée du commissariat. Le groupe a tenté à son tour, du coup, d'entrer dans le comico en frappant un coup de barre de fer dans la porte vitrée du sas, sans succès. Deux poubelles ont été incendiées et des tirs de mortier ont été fait sur le commissariat. Au total, 5 véhicules du commissariat de police ont été dégradés, les portes vitrées du sas d'entrée et 3 vitres du commissariat ont été brisées. Le secteur est redevenu calme à 1h du matin. Et alors du coup, le maire d'hiver droite de la ville, Laurent Jeanne, je dis son nom, c'est important, pour lui, l'origine de ces tensions, c'est peut-être. Donc c'est ça, c'est ce qu'il nous dit. On est sur un quartier de reconquête républicaine. Est-ce que ça dérange? Possible. Donc ça, c'est une des possibilités. Est-ce que c'est parce que c'est un quartier de reconquête républicaine? Ou alors, c'est vrai qu'il reconnaît que peut-être. Ce serait un récent accident de scooter qui est arrivé vendredi soir dans le quartier, dont la responsabilité, donc ça c'est lui qui le dit, aurait été imputée à la police nationale. On ne sait vraiment pas qu'est-ce qui a pu se passer. Reconquête républicaine ou un accident de scooter qui a fait des blessés causés par la police? Difficile de savoir. C'est pas facile pour les flics non plus à Calais, parce que dans la nuit de vendredi à samedi 3 octobre, il y a eu des échauffourées entre des migrants et des migrantes et des CRS. 7 policiers ont été légèrement blessés et un 8e plus gravement. Pourquoi, me direz-vous? Tout simplement parce que dans la nuit de vendredi à samedi, des CRS en patrouille au Beaumarais, le Beaumarais c'est un quartier de Palais, ils ont tenté d'empêcher la formation d'un campement de migrants aux abords d'un terrain de BMX. Du coup, c'est entre 80 et 800 personnes qui sont opposées aux forces de l'ordre avec des canettes, des boîtes de conserve et des cailloux. Ça intervient quelques jours après le démantèlement d'un grand camp de migrants et migrantes face à l'hôpital de Calais où il y avait 650 personnes qui du coup avaient été évacuées. Forcément, les personnes se baladaient dans Calais à la recherche d'un endroit pour se poser. Et les flics ont voulu les en empêcher. Pour une fois, les migrants et les migrantes se sont défendus. La même chose se passe à Ouistreham. Ouistreham, c'est dans le Calvados, donc un petit peu à peu près dans le même endroit, où il y a eu lundi 5 octobre au soir de grosses tensions entre un groupe de personnes et les flics. Ce groupe de personnes, c'est du coup un groupe de jeunes migrants et migrantes qui allaient assister à une distribution alimentaire qui était faite par le CAMO, collectif d'aide aux migrants de Ouistreham, et du coup qui se passe tous les soirs. Et du coup, la tension est montée d'un coup. Vers 18h, pourquoi ? Eh ben parce qu'en fait une patrouille de flics est passée voulant empêcher la distribution alimentaire, donc du coup les jeunes se sont énervés et ont balancé des pierres et les gendarmes ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. Et ben la même chose se passe à Montbéliard. Montbéliard, c'est où ? C'est dans le Doubs, plus près de Lyon quand même. Parce que dans la nuit de samedi 10 à dimanche 11 octobre, vers minuit, les CRS ont essuyé des tirs de mortier pendant près d'une heure. Les événements se sont déroulés dans la rue de Debussy et Ravel, donc ça c'est dans Montbéliard, on s'en fiche un peu. Mais du coup, pourquoi ils ont pris cher ces flics-là ? C'est parce qu'ils avaient été envoyés en renfort la veille pour épauler les flics du commissariat de la ville, parce que ça faisait 4 nuits que les forces de l'ordre étaient prises pour cible. Ainsi, jeudi soir, un contrôle technique avait été parti en flammes. Vendredi, une voiture de flics avait été brûlée. Et il y a aussi d'autres choses qui se passent dans la Manche, parce que dimanche 11 octobre vers 22h, il y a les sapeurs-pompiers de Cherbourg qui ont été appelés pour un feu de poubelle. Et quand ils arrivent, il y a un conteneur à déchets et une barricade qui brûlent au milieu de la chaussée, pendant qu'une cinquantaine de personnes, masquées et encapuchées, se tenaient juste à côté. Certains et certaines armés de barres de fer et ont tenté d'encercler les véhicules. Les pompiers se barrent et la police arrive une dizaine de minutes plus tard. Et les personnes là qui avaient organisé ce guet-apens commencent à charger et réussissent presque à faire se partir les flics en défonçant leur bagnole avec leurs barres de fer et des mortiers. Donc on voit que même si on a l'impression que la police est de plus en plus forte, il y a encore certains et certaines qui résistent un peu de partout. Mais la police, pendant ce temps-là, elle va vouloir nous faire appliquer un couvre-feu.
Et oui, couvre-feu, censure, interdiction de diffuser les images des policiers, législation de drones. Non, vous n'êtes pas sur le 20h de TF1, mais bien sur le Canu Info du vendredi. On a envie de vous dire que quand même l'époque, elle est vraiment pas tip-top. Et qu'on a l'impression que demain, ça marque un peu une date, je sais pas si on peut dire charnière, mais il va se passer plein de choses demain. Demain, c'est la mise en place d'un couvre-feu dans certaines grandes villes en France. Mais c'est aussi l'arrivée de la Marche Nationale des Solidarités des Sans-Papiers à Paris. C'est en même temps la commémoration du massacre des personnes algériennes en 1961. Bref, on est dans un contexte toujours plus répressif et on va essayer de vous faire des petits retours partiels sur l'étendue des dégâts. J'avais envie de commencer par vous parler d'un fait peut-être un peu moins connu, mais de censure qui m'a assez marqué. Et on commence du coup par le traitement médiatique des flics et de la surveillance. Début octobre, c'est la censure artistique que met en place le ministre de l'Intérieur. Alors, pour vous donner un peu le contexte, dans le cadre de Panorama 22, alors Panorama 22, c'est l'exposition annuelle de l'école d'art de Tourcoing. Donc, dans ce cadre-là, l'artiste Paolo Sirio a créé un site web qui s'appelle Capture the Police pour dénoncer la surveillance faciale. Un projet dont Gérard Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur, a obtenu l'annulation. Alors, comment ça se fait que Gérard Darmanin soit mêlé de l'exposition annuelle de l'école d'art de Tourcoing ? Alors, je vais vous raconter un peu ce qu'a mis en place Paolo Sirio. Son idée, c'était de créer une base de données de 4000 visages de policiers dans une démarche un peu de cop-watching, ça veut dire un peu de l'autodéfense populaire face aux violences policières. Et là, c'est assez ouf, la réaction du ministre de l'Intérieur, elle est instantanée. Les réseaux sociaux de syndicats de police sont en ébullition et en même pas 24 heures, le site est hors service. C'est ouf quand même. Donc ce site web, capture-police.com, annonçait une exposition au Frénois, donc à partir du 15 octobre, à partir d'hier, portant sur l'importance du débat européen sur la reconnaissance faciale. Le but de l'expo, et là je vous lis vraiment la plaquette de l'expo, c'est l'exposition Capture est constituée de visages d'officiers de police français. L'artiste a collectionné 1000 images publiques de policiers prises durant les manifestations en France. On rappelle que c'est encore légal de prendre des photos pendant les manifs en France de flics. Donc cette exposition commente l'usage et le mésusage potentiel de technologies d'intelligence artificielle et de reconnaissance faciale en questionnant les jeux d'asymétrie du pouvoir. Le manque de règles de respect de la vie privée de ce type de technologie finit par se retourner contre les mêmes autorités qui invitaient à son utilisation. Voilà ce que nous dit la plaquette. L'exposition ainsi que le site internet sont donc a priori tout à fait licites, mais ont été interdits.
Ça nous pose quand même plein de questions sur cette arrivée de technologie, surtout que dans l'autre sens, on a appris en même temps que le gouvernement ne se gêne pas. Oui, oui, puisque cette même semaine, il y a une proposition de loi sur la sécurité globale autour de l'image des policiers et de la surveillance par drone. C'est Next Impact qui a diffusé cette semaine la proposition de loi sur la sécurité globale déposée par Jean-Michel Fouvergue, Christophe Castaner et l'ensemble des députés de La République En Marche et d'Agir Ensemble. Et il comprend notamment un volet vidéoprotection et captation d'images par les drones. Cette proposition de loi prévoit d'encadrer et donc d'autoriser légalement l'usage de ces solutions de surveillance. En pratique, il crée le régime juridique de captation d'images par des moyens aéroportés, ça veut dire des drones, hein, aujourd'hui pratiqués, en l'absence de cadre clair. Alors, on pourrait penser que c'est une loi un peu sympa qui interdit les drones. Et effectivement, c'est une loi qui est censée, du coup, expliquer dans quel cadre les services de l'État ont le droit d'utiliser les drones. Et donc, c'est pour des finalités précises et dans le respect des libertés publiques. C'est ce qui est marqué dans la proposition de texte. Est-ce qu'on est content et contente de ça? On ne sait pas trop. Parce que ces finalités précises sont quand même très, très nombreuses. Je vais vous les lister un peu, puis vous allez voir comment est-ce que les drones vont pouvoir être déployés. Donc, on lit, par exemple, dans cette proposition de loi, qu'on aura le droit de nous filmer. Alors, hein, je rappelle les forces de l'ordre, puisque visiblement, les artistes, on n'a pas le droit du tout. La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public. Lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public, ainsi que l'appui des personnels au sol en vue de maintenir ou de rétablir l'ordre public. Enfin bref, l'ordre public est au centre de cette loi. La prévention d'actes de terrorisme, donc on rappelle, hein, la prévention, donc à partir de là on peut faire ce qu'on veut. Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves. La protection des bâtiments et installations publiques et de leurs abords. La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale. La régulation des flux de transport, oui oui. La surveillance des littoraux et des zones frontalières, le secours aux personnes, alors ça on ne comprend pas, ou encore la formation et la pédagogie des agents. Donc en gros, ils auront le droit de filmer tout le temps, mais pour des finalités précises. Une autre disposition complète la loi du 28 juillet 1880 sur la liberté de la presse. Elle prévoit un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l'image du visage ou de tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de la police nationale ou d'un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu'il agit dans le cadre d'une opération de police. Et moi, en vrai, ça, ce bout de texte dans la proposition de loi, ça veut dire que concrètement, on n'aura plus le droit de filmer la violence policière, ni de la prendre en photo, ni de la documenter. C'est extrêmement grave. Le texte est suffisamment large pour frapper ceux qui diffusent des images de policiers accusés de violence injustifiées sur des manifestants et des manifestantes, tout en appelant sur les réseaux sociaux à des mesures de représailles. Des futurs amendements pour autoriser la reconnaissance faciale. Donc je rappelle quand même que c'est une proposition de loi, mais bon. La proposition de loi a été corrigée pour permettre au gouvernement de raccrocher une salve d'amendements lors des débats en séance. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, ils veulent rajouter à cette proposition de loi le thème de l'expérimentation de la reconnaissance faciale qui devrait faire son apparition en prévision des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Voilà, donc sachez que vous n'avez plus le droit dès maintenant de diffuser des images qui sont prises légalement lors de manifestations, mais que de plus en plus, les flics, eux, vont vous prendre le portrait, enfin, photographier, filmer sur à peu près tout ce que vous faites. Dans ce contexte où le pouvoir s'octroie chaque jour plus de pouvoir dans le fichage et la surveillance, en bridant toujours plus les outils d'autodéfense populaire, le couvre-feu arrive demain. Et oui, breaking news, le virus circulerait moins dans les transports en commun bondés qui mènent au travail qu'au cœur de la nuit. Et donc, couvre-feu, mais aussi état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire. Donc il y a des mesures qui s'impliquent vraiment partout, pas que dans les zones de couvre-feu, comme l'interdiction des fêtes privées ou le respect de la règle de 6 personnes dans l'espace public. Les bons esprits rappellent que le mot vient de couvrir le feu, donc ça veut dire une mesure prise pour éviter les incendies. Mais de quel incendie parle-t-on donc ici? On parle bien ici d'une mesure sécuritaire dont l'efficacité sanitaire reste à prouver. La période de couvre-feu la plus marquante reste celle de l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Le couvre-feu revêt une dimension légale depuis le 3 avril 1955, lors de l'instauration de l'état d'urgence dans la loi, pour faire face aux attentats commis par le FLN dans le contexte de la guerre d'Algérie. Cette loi permet à ce moment-là au préfet d'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et heures fixés par arrêté. L'idée, c'est alors de surveiller les populations arabes en Algérie et de faciliter l'interpellation des suspects, contraints de rester chez eux pendant certaines heures. En octobre 61, le couvre-feu est instauré à Paris par le préfet de police Maurice Papon, condamné en 98 à 10 ans de réclusion pour son implication dans la déportation des personnes juives de la région bordelaise. La mesure ne concerne à ce moment-là que les Français musulmans d'Algérie, soupçonnés d'être de possibles combattants indépendantistes. Le 17 octobre 61, des dizaines de milliers d'Algériens manifestent pacifiquement contre ce couvre-feu discriminatoire. La manifestation est plus que violemment réprimée et plus d'une centaine d'Algériens et d'Algériennes sont exécutés. Certains corps sont retrouvés dans la Seine et une nouvelle fois, le couvre-feu renvoie à une période répressive, totalitaire l'histoire récente française. Le couvre-feu, il a été utilisé récemment plusieurs fois. En 2005, par exemple, l'état d'urgence est proclamé lors des émeutes dans les banlieues consécutives à la mort de Zied Bena et Bouna Traoré dans un transformateur à Clichy-sous-Bois, alors qu'ils étaient poursuivis par la police. À l'époque, c'est 25 départements, dont Paris, qui sont concernés par le décret d'application du couvre-feu. Alors, il n'est pas utilisé partout. Par exemple, l'Île-de-France, elle ne l'instaure pas, contrairement au département de l'Eure ou des Alpes-Maritimes. Dans un département, le couvre-feu est instauré dans 21 communes entre 22h et 5h, et ça concerne uniquement les mineurs. On voit toujours que le couvre-feu, c'est une mesure sécuritaire, en fait, qui vise toujours des personnes qui, selon le gouvernement, selon le pouvoir, pourraient troubler l'ordre public. Il y a eu d'autres mesures de couvre-feu aussi en 2015. Mais depuis mai, c'est tout un département, la Guyane, qui expérimente une sorte de couvre-feu sanitaire à la carte. Depuis juin, le préfet a publié des dizaines d'arrêtés successifs, modifiant les horaires et ajoutant des communes à la liste en fonction de l'évolution de l'épidémie. Au risque d'une annulation par le tribunal administratif de Cayenne le 27 mai, pour 12 des 22 communes pour lesquelles, selon lui, le couvre-feu ne se justifiait pas. Ben oui, parce que le couvre-feu, c'est pas une réponse au problème sanitaire, c'est une réponse à la peur et c'est une réponse sécuritaire. Il est plus que jamais nécessaire de développer des solidarités d'envergure et une prise en charge du risque sanitaire. Mais moi, je ne crois pas en aucune façon que le couvre-feu participe à cette prise en compte du bien-être collectif. Les mesures annoncées sont dans la continuité de la politique du gouvernement depuis le début de la crise sanitaire. Légères sur le plan scientifique, sans moyens matériels, sans égard pour les priorités de l'épidémie. Le couvre-feu est une méthode répressive qui porte atteinte à la vie sociale et à la liberté de circulation. Or, si le gouvernement n'hésite pas à viser les événements publics ou privés, alors même que ceci représenterait une part, en tout cas pas forcément la plus importante des clusters, et bien que ceci ne constitue pas la totalité des contaminations, le gouvernement ne parle pas trop par contre de la situation des établissements scolaires et universitaires. Il ne donne pas vraiment de moyens aux hôpitaux, mais il ne parle pas non plus de la contamination en entreprise, qui sont les principaux foyers de contamination, ou dans les transports en commun. On a trouvé un peu, parce que vous savez, hier, il y a eu une grosse manif des soignants et des soignantes, qui sont toujours aussi vénères depuis la fin du confinement. Et il y avait par exemple ce manipulateur radio et secrétaire général de la CEGET au CHU de Toulouse qui nous disait, enfin qui disait sur Internet, si le couvre-feu est mis en place, c'est parce qu'on craint la surcharge des services de réanimation. Or cela serait passé bien différemment si le gouvernement avait ouvert des postes d'hospitaliers, augmenté le nombre de lits. Je trouve scandaleux qu'on impose aux gens de sacrifier leur vie privée et leur liberté parce que le gouvernement n'a pas fait ce qu'il avait lui-même dit qu'il ferait, une refonte du service public hospitalier. Alors voilà, on est un peu démunis face à tout ce couvre-feu et à toutes ces mesures sécuritaires. Mais du coup, on a trouvé sur Internet un appel à découvrir le feu demain à 20h, place Mazagran. Alors, on vous lit cet appel. Il y a marqué en réponse à l'appel parisien, nous appelons à braver le couvre-feu samedi 17 octobre, du coup demain à 20h, place Mazagran et tous les samedis suivants. Nous refusons le couvre-feu. Nous refusons de payer sur nos vies l'aberration des gouvernants. Nous refusons de subir encore le ressentiment du pouvoir contre ce qu'il reste de joie dans notre existence. Nous refusons le paradoxe tordu qui consiste à nous empêcher de vivre au nom de la vie.
Nous refusons qu'un quelconque gouvernement prétende nous maltraiter pour notre bien. Nul n'est mieux placé que nous pour savoir ce qui est bon pour nous.
Nous refusons de laisser l'État s'approprier, sous couvert de solidarité ou de collectif, ce qui relève du lien entre les êtres.
Nous refusons de nous laisser mener un enfant par une bande de gogoles à diplôme.
Nous refusons d'ignorer que tout gouvernement n'a de principal souci que le contrôle de la population et que le couvre-feu émane d'un conseil de défense.
Nous refusons de voir dans le goût du pouvoir qu'autre chose qu'une sinistre perversion qui use du pouvoir en abuse, c'est connu.
Nous refusons de voir un pervers présidentiel jouir obscènement de nous serrer la vis et de frapper les esprits.
Nous refusons de croire qu'un État qui laisse l'industrie nous intoxiquer depuis des lustres, qui réintroduit la néonicotinide, qui impose la 5G, qui éborgne sans état d'âme les manifestants et manifestantes, qui laisse les pauvres crever de faim, qui rationne soins et soignantes, qui couvre de tous les abus de la mafia nucléaire depuis toujours, qui planifie sous couvert de relance verte la dévastation des campagnes par l'éolien industriel, prétend se soucier moindrement de notre santé.
Nous refusons qu'une épidémie serve à produire le civisme qu'une société qui va dans le mur ne parvient plus à commander.
Nous refusons de vivre pour travailler.
Nous refusons de vivre pour l'économie, dont toute la terre atteste le désastre.
Nous refusons que la police s'avance partout ou recule l'assentiment du libre arbitre.
Nous refusons le chantage entre liberté et discipline.
Nous refusons d'avoir à choisir entre le délire de la propagande gouvernementale et celui du conspirationnisme.
Le couvre-feu, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Vous avez cherché à pousser votre avantage un cran trop loin. Ne comptez plus sur notre coopération.
Vous nous trouverez sur votre chemin à chaque nouveau pas dans la démence gouvernementale que vous ferez. Reprenez vos préfets, vos ordonnances, vos états d'urgence, vos journalistes, vos managers, vos ministres, vos flics, vos grands inquisiteurs, vos experts et vos politiciens.
Nous ne jouons plus le jeu. Les règles vont en changer. Nous allons reprendre nos vies en main. Vous n'êtes plus digne de vous en mêler.
Nous nous rassemblerons à l'avenir tous les samedis à 20h, avec ou sans flambeau.
Nous déambulerons dans les rues de nos villes jusqu'au pied de vos palais.
Jusqu'à votre destitution, jusqu'à que nous puissions enfin respirer l'air libre.
Et voilà, l'appel est donné demain à 20h, mais il y a plein d'autres appels à Lyon contre ce couvre-feu et globalement contre les mesures autoritaires, liberticides, mais aussi vraiment inégalitaires du gouvernement. Et c'est l'acte 101 des Gilets jaunes demain, oui oui, et un appel national à Lyon. Le dernier appel national à Lyon avait eu en mars dernier. Le rendez-vous est donné à 13h12, tadadadam, place Bellecour. Les revendications, c'est toujours un peu les mêmes. C'est le RIC, les référendums d'initiative citoyenne, mais aussi pour la justice sociale et fiscale, contre les injustices et les inégalités, pour les blessés et les condamnés. Mais on voit aussi une sorte de convergence des luttes dans cette manifestation de demain à 13h12, place Bellecour, puisqu'il y a des appels venant des mouvements Black Lives Matter, mais aussi des appels antifascistes qui appellent à rejoindre les Gilets jaunes demain. L'appel, c'est aussi pour demander la fermeture de la Traboule, le bar associatif des identitaires. C'est aussi pour appeler à manifester contre le racisme systémique et les violences policières, mais également à réaffirmer la lutte antiraciste à l'intérieur du mouvement des Gilets jaunes. C'est donc un rendez-vous multiple qui est donné demain à 13h12, place Bellecour. On a aussi vu qu'il y avait un appel à 18h, place des Terreaux, pour un rassemblement contre les mesures liberticides prises par le gouvernement. Donc voilà, vous pouvez noter 13h12, place Bellecour, 18h, place des Terreaux, 20h, place Mazagran. On avait aussi envie de vous rappeler l'indécence d'annoncer un couvre-feu un 17 octobre. Ce jour-là, en 1961, des dizaines d'Algériens et d'Algériennes ont été noyés dans la Seine ou massacrés par la police française à Paris. C'est un peu un devoir de justice de ne pas oublier ce moment-là. Le 17 octobre 61, alors que la guerre d'Algérie touche à sa fin, le FLN appelle à une manifestation pacifique dans les rues de Paris pour dénoncer le couvre-feu raciste imposé quelques jours plus tôt aux Algériens et aux Algériennes et par extension à toutes les personnes maghrébines. En gros, c'est l'obligation d'être sans cesse isolé et interdiction aux travailleurs et aux travailleuses de sortir de 20h30 à 5h30. Les cafés tenus par les personnes musulmanes doivent fermer à 19h, etc. Cette manifestation, elle a rassemblé plus de 30 000 personnes. Et la répression policière, elle a été terrible. C'est des dizaines d'Algériens et d'Algériennes, peut-être entre 150 et 200, qui ont été exécutés. Certains corps sont retrouvés dans la Seine, et pendant plusieurs décennies, la mémoire de cet épisode majeur de la guerre d'Algérie sera occultée. L'exécution de plus d'une centaine de manifestants et de manifestantes algériens et algériennes à Paris le 17 octobre 1961 reste méconnue. On va essayer de continuer à raviver cette mémoire et de continuer à déconstruire le système sécuritaire et raciste et colonialiste français.
Alger capitale, au commencement des 60s, les pieds noirs quittent le navire, les colons terre attisent. 1961, période estivale, c'est la guerre d'Algérie et son festival. Et son lot de discrimination, de torture, d'exaction, tout un ramassis d'or dur. Quelques degrés au nord de l'équateur, je quitte l'Algérie française, un pincement dans le cœur. Voici mon parcours, Ahmed, fils de Mohamed, gangréné du corps par la misère du Maghreb. Par les meurtres, les soirs de couvre-feu, par la peur du soldat français qui ouvre le feu. Ouvre les voiles, petit paquebot.
drapeau libérateur. Emmène-moi au pays des employeurs, loin de l'inactivité beurre algéroise, loin de ceux qui transforment nos mosquées en paroisses. Basilique de Notre-Dame d'Afrique s'éloigne de mon regard lorsque les mouchoirs s'agitent. Verse une larme dans la Méditerranée, une goutte d'eau dans la mer contient la peine de ma terre damnée. Port autonome, cité phocéenne, un étranger parmi les autochtones. Direction Saint-Charles, gare ferroviaire, embarquement quai 7, voiture 6, wagon fourrière. Croise le regard des îlotiers, me foudroyant le cœur comme un tir de mortier. Reçois la flèche de la haine par les appelés du contingent. Tes papiers, je suis français, mission lâchant. Chemin de fer, terminus, Paris, gare de Lyon. La métropole et son peuple par millions. Quelques dizaines de francs serrés dans un point, serviront de premier contact au café du coin. Moi qui cherchais de la chaleur, j'ai eu le sang glacé quand mes yeux rencontrèrent les leurs, couleur iceberg bleuté, bluffé par leur manque d'hospitalité. Ainsi sont-ils moralisateurs sans moralité. Démoralisé, je reprends le chemin, lequel me conduira dans les quartiers maghrébins. Nanterre, monticule de bidonville, habitation précaire pour mon entrée en vie civile.
Je ne laisserai pas les tueurs du FLN faire la loi dans Paris. À partir de maintenant, pour un coup reçu, vous en rendrez 10.
Ici, rien de bon pour les ratons, m'a dit le commissaire sanguinaire de mon canton. Après m'avoir uriné sur les mains, le gardien de la paix casse du cru au quotidien. 17e jour du mois d'octobre, le FLN a décidé de mettre fin à l'opprobre. En effet, le journal de la veille titré, couvre-feu recommandé pour les immigrés. Non, la réaction ne s'est pas faite attendre. Algériens de France dans les rues, nous allons descendre. Protester contre leurs lois discriminatoires, investissons leurs ponts et leurs centres giratoires. Embarqués dans un cortège pacifique, nous réclamons justice pour nos droits civiques. Mais la police ne l'entend pas de cette oreille. En cette période, nous sommes un tas de rares rebelles. Marchons en direction du pont Saint-Michel. Nous verrons bien quelle sera l'issue de cette querelle. Une fois sur la berge, j'aperçois le comité d'accueil qui souhaite faire de ce pont notre cercueil. Les camps s'observent et se dévisagent. Un silence de mort s'installe entre les deux rivages. Puis une voix se lève, scande à bas le couvre-feu et ouvre le feu. La première ligne s'écroule et commence la chasse à l'homme. Je prends mes jambes à mon cou comme un pur sang, je galope. Mais le pont est cerné, nous sommes bernés dans une prison sur pilotis. Nous sommes enfermés, pas une, pas deux, mais une dizaine de matraques viennent me défoncer le crâne et mes os craquent sous mon anorak. Ma bouche s'éclate bien sur les trottoirs, leur bouche s'esclave bien grande de nous voir. Nous allons voir si les rats savent nager. Au fond de la Seine, vous ne pourrez plus vous venger. Inconscient, gisant dans mon propre sang, les brigadiers en chef par tous les membres me saisissant. Amorce ma descente, là où passent les péniches. S'assure de ma mort, frappant ma tête sur la corniche. Je tombe comme un déchet au vide d'ordure. Dans la chute, violemment, ma nuque a touché la bordure. Liquide, poignardant tous mes orifices. Le fleuve glacial, un bûcher chaud pour mon sacrifice. Monsieur Papon a jugé bon de nous noyer. Aucun pompier pour étouffer le foyer. On n'éteint pas des braises avec un verre de gasoil, sans penser aux tirailleurs et combattants soif. Mon cadavre, emporté par le courant, sera repêché dans les environs de Rouen. D'étranges nénuphars flottent sur la scène. Séquence long métrage, les yeux plongés dans la scène. Des cas des eaux pour les gens des humains eaux. Déshumanisés, les basanés ne font pas de vieux os. D'étranges nénuphars flottent sur la scène. Séquence long métrage, les yeux plongés dans la scène. Un saut de piste dans lequel on noie des rats. Octobre noir, ratonnade sous les boulevards. Ici, rien de bon pour les ratons, m'a dit le commissaire Maurice Papon. 4 mois plus tard, on ratonne à Charonne. Les crouilles et les cocos qui aident les bougnoules. 132 ans d'occupation française ont servi à remplacer nos cœurs par des braises. Algérie, en vert et blanc, étoilé croissant. Devoir de mémoire grandissant, Djezaïr.
À 20h45.
Ouais, salut Médine. C'était Mélanie. Bien.
Et voilà, on vient d'écouter Médine autour du 17 octobre 1961. On a envie de vous dire que la lutte continue et qu'aujourd'hui, pour leur rendre hommage aussi, mais pas que, enfin demain, je veux dire, C'est la marche de solidarité, la grande marche nationale des sans-papiers qui va arriver à Paris. C'est une marche qui a débuté le 19 septembre des quatre coins de la France, en tout cas de Marseille, qui est partie ensuite de Montpellier, mais aussi de Strasbourg et du Havre, pour se retrouver à Paris le samedi 17 octobre pour manifester pour la régularisation de toutes et toutes les sans-papiers et les personnes sans-papiers contre tous les centres de rétention et pour un logement pour toutes et tous. Il y a trois horaires qui sont donnés, puisque du coup ce sera trois cortèges qui vont se retrouver encore demain. Donc les rendez-vous sont à 10h porte de Paris, à 10h porte de Montreuil, à 10h porte d'Italie. Ces personnes, elles convergent pour manifester parce que c'est leur droit. Elles manifestent pour l'égalité de tous et toutes, en souvenir des centaines d'Algériennes et d'Algériens tués un 17 octobre 1961, alors qu'elles et elles marchaient pour la liberté en mémoire de leurs frères et de leurs sœurs qui meurent chaque année par milliers sur les routes d'émigration. Je pense qu'il y a vraiment plusieurs milliers de personnes qui sont attendues demain à Paris. Ça va être un moment assez fort. Ces personnes, elles sont passées à Lyon du 1er au 4 octobre. Vous pouvez retrouver des reportages sur les Canuts Info du vendredi et du lundi sur le blog des Canuts Info pour suivre leur passage lyonnais. Et le Canuts Info du vendredi ne sera pas avec elle et eux demain. Mais on espère que ce sera une belle manifestation. En tout cas, c'est une grosse journée demain, que ce soit à Paris ou à Lyon.
Et je m'en vais les remplacer tous à moi tout seul et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends?
Et maintenant, dans le Canuts Info, la rubrique droit au logement.
La question, c'est de trouver des structures et des solutions qui soient un peu pérennes dans le temps.
Ensemble, nous avons à détruire la misère qui agresse la planète entière.
Et ouais, parce que qu'est-ce qui se passe pendant ce couvre-feu? Eh ben, vous pensez que ça va être l'état d'urgence sanitaire. Donc ça veut dire qu'on va s'occuper de chacun, chacune, qu'on va vraiment faire attention à tout le monde, notamment aux personnes les plus précaires, notamment aux personnes à la rue et notamment aux lieux de lutte. Eh ben, pas du tout. Parce que, pour bien comprendre ce qui se passe pendant ce confinement, le but, c'est quand même de pouvoir, pendant ce couvre-feu, c'est l'inverse du confinement, c'est qu'on va continuer à aller travailler, sauf qu'ensuite, on va juste pouvoir passer au centre commercial et rentrer chez soi. Et ça, c'est assez symptomatique, du coup, quand on écoute la ministre déléguée au sport qui s'appelle Roxana Marie... Oh merde, Maratinea... Nous. Cette ministre, elle dit qu'elle refuse de demander une dérogation au couvre-feu pour les sportifs et sportives amateurs. Parce que, faudrait qu'on soit responsable dans cette situation. Il faut faire attention au personnel médical, aux personnes qui sont malades. Du coup, c'est vrai que moi, je pensais que pour faire attention au personnel médical, fallait donner des moyens à l'hôpital. Mais non, c'est un problème d'organisation. Mais a priori, moi, je trouve quand même que c'est quand même un problème de moyens pour l'hôpital. Un problème de construire des lits, construire des professionnels, pouvoir les former et pouvoir leur donner ce qu'ils et elles demandent pour pouvoir travailler. Et ben non, du coup, Madame Roxana, elle trouve qu'il faut juste soutenir ces professionnels. Et du coup, elle demande pas de soutien, de dérogation du couvre-feu pour les sportifs et sportives amateurs, parce que le sport, selon elle, a déjà été bien traité depuis le début de la crise. Et du coup, la question avant tout, c'est pas que les gens puissent faire du sport, que les gens puissent développer des solidarités, que les gens puissent se rencontrer en pratiquant un sport, mais c'est surtout la question, c'est que le spectacle, et ça c'est elle qui le dit, le spectacle sportif peut continuer à se dérouler. Donc rendez-vous bien vous compte, ce qui est important, c'est que le spectacle sportif puisse continuer à se dérouler. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on puisse continuer à avoir des grands groupes industriels qui financent des clubs de sport, mais alors du coup chacun chacune puisse pratiquer du sport et découvrir le fait de faire des choses ensemble. Ça c'est pas très important pour en tout cas la ministre des Sports, parce que moi je suis pas sûr que ce soit le plus important quand même, le spectacle sportif. Mais en même temps, il y a le spectacle des expulsions qui se passe, parce qu'à la veille du couvre-feu, le gouvernement multiplie les expulsions de logements et de ZAD. Ça commence à Nantes d'abord, où des zones à défendre ont été expulsés, de même qu'en Isère et dans l'estuaire de la Loire, où il y a des occupations aussi dans le logement dans le sud-ouest qui ont été expulsés. Du coup, depuis quelques jours, les préfets multiplient les évacuations malgré la crise sanitaire. Il faut se dépêcher, comme d'habitude, avant la trêve hivernale. Ainsi, on a d'abord le village du peuple situé à Donge, en Loire-Atlantique, qui a été expulsé le 15 octobre. Il était installé dans une ancienne ferme et refusait la bétonisation de 58 hectares de zone industrielle. Par un projet d'extension industrielle. Et du coup, à 2 km, il y a juste une autre ZAD qui s'appelle la ZAD du Carnet, qui pour l'instant a échappé à l'évacuation. Ces deux lieux de lutte sont différents, mais se soutiennent et se mobilisent en fait ensemble contre la bétonisation de l'estuaire de la Loire. Au total, ce sont 110 hectares d'espace naturel qui devaient disparaître, sur lesquels il y a une 116 espèces animales et végétales protégées qui risquent de disparaître sous le béton. C'est ce qu'on appelle le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire. Alors attention, ne vous inquiétez pas, parce que le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire envisageait d'implanter un parc écotechnologique dédié aux énergies renouvelables. Du coup, on imagine bien ce que ça va donner, ce petit parc, au même moment où on va détruire 110 espaces d'espace naturel, 110 hectares d'espace naturel. Du coup, la ZAD du Carnet, qui, elle, est toujours debout, demande des soutiens importants sur place dès vendredi 16 octobre, donc ce matin finalement, parce qu'il y a des chantiers de construction collective ce week-end 17 et 18 octobre. En même temps, à Nantes, c'est le squat d'artistes dans la commune de Rézé qui a été expulsé le 12 octobre, alors que ce squat, du coup, s'appelait La Commune, référence à votre avis à quoi ? Et bien sûr à l'idéal communard, dans lequel travaillent des demandeurs d'asile tchadiens, qui avaient divers ateliers d'artistes, ainsi que des activités associatives, comme la réparation de vélos, un bar, des logements, une salle de spectacle, et compagnie. Et tout ça, c'est terminé depuis le 12 octobre. Et plus proche de nous, c'est la ZAD de Roibon qui a été expulsée le 13 octobre. En effet, des militants et des militantes occupaient la forêt de Chambaron depuis 6 ans pour s'opposer à la construction d'un center park. Le projet touristique a été abandonné le 8 juillet, mais des personnes étaient restées sur le site. Et du coup, Gérald Darmanin, qui n'est pas le dernier pour dire des conneries, a salué cette expulsion. Il y a eu un certain nombre d'occupations de logements qui ont été évacuées à Nantes, où il y avait une vingtaine de personnes, et une autre à Blagnac, dans la Haute-Gironde. Donc ça, c'est les expulsions qui ont été recensées par le DAL, donc par le droit au logement. Du coup, il y en a bien plus qui ont été faites. C'est souvent ce qui se passe juste avant la trêve hivernale. Du coup, le DAL alerte. La police va-t-elle dresser des procès-verbaux, du coup, pour toutes les personnes qui vont se retrouver expulsées et qui ne seront pas hébergées faute de place? Pour toutes celles et ceux qui sont entassés dans des structures d'hébergement, des hôtels, des taudis encore plus exposés au Covid, dans des clusters potentiels? Pour des dizaines de milliers de familles menacées d'expulsion sans relogement avant le début de la trêve hivernale et après, sachant que les dispositifs d'accueil sont saturés? On se rappelle, à Lyon, il y a 9000 personnes qui sont en demande d'hébergement. Du coup, alors, au moment où on aurait pu penser que c'était le moment, justement, de proposer des espaces d'accueil, de commencer à construire des hébergements, de commencer à construire des logements, de commencer à penser une autre façon d'accueillir les gens, c'est tout l'inverse que fait le gouvernement. Ne vous inquiétez pas, le couvre-feu, c'est pour la situation sanitaire, mais c'est surtout pour la situation sanitaire économique. La situation sanitaire de vous et moi, tout le monde s'en fiche.
Parfois même avec des talents de poète. La meilleure des polices demeure inégalable. Dans l'art de tous nous mettre à table, tous en place, tous remis en cage, doux, sage, sans effusion ni rage, aucun usage, d'aucune trique, d'aucun bracelet à serrure métallique. La meilleure des polices n'extorque pas de renseignements, elle ne gâche pas son temps, des heures durant, au fond d'un poste puant, à faire couler le sang, du dernier schlag échoué en cellule de dégrisement.
La meilleure des polices chasse sur les terres, du paradis sur terre, qu'elle vend clé en main, où on connaît le moyen de procurer l'envie de rien, la peur de tout, l'effroi de la joie, l'angoisse du chagrin. La meilleure des polices, c'est tout ce qu'on te prend, tout ce qu'on te laisse, tout ce qu'on tue en toi, tout ce qu'on te mâche, tout ce qu'on crache, tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou.
Et ouais, il y a deux semaines, on vous parlait des copains et des copines de Toulouse qui ont pris 2 mois ferme de prison parce qu'il et elle étaient accusés, alors même qu'il et elle nient les faits, d'avoir collé des affiches et fait des tags anti-État, et surtout pour avoir refusé de donner leur identité. Face à la révolte que cette nouvelle provoque, des actions de solidarité se sont multipliées. Donc on a d'abord à Marseille, en fin de semaine, où on a pu voir apparaître sur les murs de plusieurs arrondissements de Marseille, les messages qui étaient écrits sur les affiches que les copains et copines sont accusés d'avoir collées. Donc je vous rappelle, c'était quoi ? Nique les keufs, nique la justice, le feu tue les virus, brûle ton comico comme à Champigny-sur-Marne. Ne relevons pas l'économie mondiale, détruisons-la, avec ou sans masque, ce monde est irrespirable, détruisons ce qui nous étouffe. État, et alors ça je pense que c'est spécifique à Marseille, État, mange tes morts sur le vieux port. Il n'y a pas de bons enfermements, il n'y a pas d'âge pour se révolter. Elle me dit pas mal, que finement, bah ouais. Et donc dans le même temps, des dizaines de voitures ont été des caisses de luxe, des entreprises de sécurité, de télécom, d'énergie, de wifi, nanana, ont eu leurs pneus crevés, dégonflés et leurs vides pétés. Et de même à Toulouse, c'est samedi dernier que 35 personnes se sont rendues près de la prison de Cesse où sont enfermés les 7 de Toulouse, comme on les appelle du coup, les 7 copains et copines qui ont pris 2 mois ferme pour exprimer l'envie de voir cette tôle disparaître et leur solidarité avec les personnes à l'intérieur. Elle et ils ont gueulé, klaxonné, quelques cris sont partis en retour de l'intérieur. Malheureusement, assez rapidement, il et elle se sont fait embrouiller par des voisins, propriétaires de chevaux dans le champ entre le chemin et la tôle. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas débordés, les voisins, quand même. Mais donc, du coup, ils sont quand même tellement pas débordés qu'ils se sont pris aux personnes rassemblées. D'abord en les menaçant physiquement et après, ils ont appelé les DEC. Mais pour s'assurer que les DEC puissent bien faire leur taf, ces voisins ont bloqué la route pour empêcher les bagnoles de partir. Les flics ont donc pu relever toutes les plaques et contrôler les identités de 2 personnes. Les voisins ont déposé plainte contre 1 personne qui s'est faite embarquer pour une vérif et qui est transformée en garde à vue pour refus de signal éthique. Cette personne est sortie au bout de 24 heures et a pu ne pas donner de pièce d'identité. Donc les personnes qui ont organisé cet événement disent « Nous voulons que la rage puisse continuer de s'exprimer et que tous les parloirs et initiatives puissent continuer à avoir lieu. C'est pourquoi on vous prévient de faire attention à la présence de ces poucaves. Feu aux prisons, liberté pour toutes et tous, avec ou sans papier. »
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est, oui, en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Et oui, parce que comme on vous l'a dit, c'est une énorme journée demain.
Ah ouais.
Alors, on vous imagine à Lyon. À Lyon, vous avez rendez-vous à 13h12 où ?
Place Bellecour.
Avec les Gilets jaunes, Black Lives Matter, le mouvement antifasciste, pour crier votre colère contre ce monde capitaliste, colonial et patriarcal, parce que ce monde est patriarcal.
Et après, à 18h, on fait quoi ?
À 18h, on a rendez-vous au terreau avec encore...
Un rassemblement contre les mesures de couvre-feu.
Ouais, les mesures liberticides, et ça c'est aussi appelé par, entre autres, le mouvement des Gilets jaunes. Mais c'est pas tout contre ces mouvements liberticides, il y a un autre rassemblement.
Ah ouais, à 20h, place Mazagran.
Et oui, et ça c'est appelé par plein de personnes qui se disent qu'on a envie plutôt de réouvrir le feu, d'allumer la flamme, on ne sait pas. En tout cas, rendez-vous à 20h, place Mazagran, aussi contre ce couvre-feu.
Radio Canu.
Bonjour,
je m'appelle Mathieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ACAB?
Radio Canu.
Canu Info du vendredi.
Eh bien, cette semaine, ACAB, vous en doutez, ça va parler de couvre-feu. ACAB, ça veut dire, alors même qu'ils nous mettent un couvre-feu, on n'arrêtera pas de se bagarrer. Le Canu Info du vendredi, c'est terminé. Le Canu Info du vendredi, pour une fois, fini pile à l'heure. Quand même, j'espère que la meilleure émission de rap musette de la bande FM est au courant, qu'on finit pile à l'heure. Et en même temps, on écoute. En attendant que Noise Pollution arrive, eh ben, un groupe qui s'appelle Couvre-feu Chatterton.
meilleure blague 2020.
Et pendant ce temps-là, je peux vous dire que vous pouvez retrouver l'émission du Canu Info du vendredi, comme tous les Canu Info, sur le blog de Radio Canu. Vous tapez blog.radiocanu.org/canuinfo et vous retrouverez toutes les émissions. Et tout de suite, c'est toujours Noise Pollution.